19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour, bonsoir à tous, bienvenue, c'est parti. Vous le savez, comme chaque soir, nous sommes ensemble pour les informer en direct, en live, décrypter, analyser et commenter l'actualité tous ensemble. Vous le savez, au sommaire de cette émission aujourd'hui, eh bien nous allons le recevoir pour l'invité actu du jour, le maire de Trappes, oui. Le maire de Trappes, la ville, le tribunal administratif qui a annulé les élections au niveau municipal, eh bien donc, la population va devoir donc être amenée à revoter prochainement. On va en parler avec le maire de la ville de Trappes. Ensuite, après, j'ouvrirai l'antenne avec les relations Algérie-Maroc qui sont tendues, les relations diplomatiques extrêmement exécrables, 01 53 48 3000, et en plus, on peut parler quand même de... Enfin, bref, je vais développer tout à l'heure. Ensuite, le face-à-face avec Nadir Kaya et Hamid Chrieh tout à l'heure. Le face-à-face qui se résume à trois sujets. Éric Zemmour et la une de Paris Match. Ensuite, après direction, vous savez, eh bien, tout simplement, la France humiliée, disent certains politiciens. Biden, Macron se sont entretenus. Des promesses, des confiances, une confiance qui est cassée. On en parle tout cela tout à l'heure avec ce face-à-face. Voilà le programme qui vous attend. C'est tout de suite et c'est plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est vous le savez, vous pouvez d'ores et déjà, évidemment, noter et commencer à nous appeler dans une poignée de minutes. Tout de suite, l'invité actu.
Les informés, l'interview.
Et c'est le maire de la ville de Trappes dans le 78, dans les Yvelines, qui est avec nous, monsieur Ali Rabet, le maire. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour Adil Farkan.
Bonjour.
Je suis pas encore maire, j'étais maire jusqu'à il y a peu,
c'est vrai.
Au mois d'août, et les élections seront organisées en octobre pour désigner le nouveau maire et je suis de nouveau candidat.
Absolument. D'ailleurs, on va en parler, le Conseil d'État donc qui a prononcé la tenue d'un nouveau scrutin, le tribunal administratif de Versailles qui a annulé les élections municipales, qui a été, rappelons-le, remporté par vous-même, Ali Rabet. Alors, aujourd'hui, on en est où précisément, dans le cadre évidemment d'abord un de votre situation, qu'on aimerait évidemment clarifier, est-ce que tout cela est éligible, est-ce qu'il y a une éligibilité ou pas du tout de l'élu racontez-nous un petit peu où en est-on précisément aujourd'hui.
C'est très simple. Mon adversaire de droite, Othman Nasrou, a déposé un recours il y a un an après mon élection, en considérant que l'écart entre nous n'était pas important, ce qui est vrai. J'ai gagné avec 3% d'avance sur sa liste. J'ai remporté 40% des suffrages et lui 37%. Et il m'a reproché un certain nombre de griefs, une douzaine de griefs qu'il a desserrés devant les tribunaux.
Lesquels, par exemple? C'est la principale grief, par exemple?
Franchement, ce serait interminable. Vraiment, il y a des griefs ridicules dans la liste. Mais ils ont tous été écartés par le tribunal administratif et en particulier par le Conseil d'État. Sauf un qui a été retenu et qui a justifié pour le Conseil d'État qu'on recommence les élections. J'ai distribué pendant le confinement, le premier confinement, rappelez-vous, des masques par l'association dont j'étais le président à l'époque. Et moi, je n'ai pas voulu faire payer ces masques par le contribuable en les déclarant dans mes comptes de campagne et donc en étant remboursé par l'État. J'ai considéré que mes activités associatives étaient indépendantes de mes activités de candidat aux élections municipales. Et le Conseil d'État dit que j'aurais dû déclarer ces fabrications de masques et me faire rembourser par l'État et que, faute de l'avoir fait, il faut recommencer l'élection.
Bon, juridiquement, est-ce que ça tient la route, ce que vous nous êtes en train de nous dire?
Moi, je considère que si le Conseil d'État, ça tient la route. Oui. Si le Conseil d'État le décide, moi je l'accepte. Le vrai but de mon adversaire, c'était pas tellement de recommencer les élections, c'était de m'évincer de la scène politique, d'obtenir mon inéligibilité, donc l'impossibilité que je me présente à l'élection.
Quand vous dites votre adversaire, c'est Othman Nasrou.
Othman Nasrou, candidat de la droite, proche de Valérie Pécresse. Et le Conseil d'État, les juges ont dit qu'il n'y avait aucune raison de m'empêcher de concourir.
161 voix d'écart, hein, évidemment, au municipal de juin 2020, je le rappelle. Hein.
Absolument. Ali Rabet. Et donc les juges ont dit, recommençons l'élection, mais Ali Rabet doit pouvoir concourir, comme Othman Nasrou et comme tous ceux qui le voudront. Et donc je suis candidat de nouveau pour ma réélection, tout simplement, donc, et pour voir si les trappistes me font toujours confiance.
Oui, alors parlons-en, justement. S'ils vous font confiance, donc si demain vous êtes réélu, vous avez la possibilité de vous retrouver et d'endosser de nouveau la casquette de maire de la ville de Trappes.
Tout à fait, c'est le cas.
C'est le cas. Aujourd'hui, comment vous positionnez votre stratégie, justement, pour aller reconquérir celles qui vous ont fait confiance, et celles et ceux, d'ailleurs, qui vous ont fait confiance? Si cette confiance est cassée, comment vous la réparez?
Alors, elle n'est pas du tout cassée, parce que, au contraire, les trappistes sont très massivement scandalisés par le fait que nous ayons de nouvelles élections. Ils ont jugé qu'ils m'avaient élu il y a...
C'est les échos que vous avez eus ?
À tous les jours sur le terrain, il suffit de venir sur le terrain pour s'en rendre compte. Beaucoup ne comprennent pas. Si j'avais triché, fraudé, volé de l'argent ou acheté des électeurs, on pourrait comprendre que les élections soient annulées et qu'on recommence. Là, en l'occurrence, c'est une histoire de fabrication et de livraison de masques, vous savez, à des infirmières, à des personnes dans le besoin, à des sans-papiers qui sont logés dans les hôtels sociaux de Trappes. C'est des actions, en fait, à caractère caritatif, totalement désintéressées et qui ne m'ont rien rapporté. Et en particulier électoralement, franchement, quand on distribue des masques à des personnes sans papier, en général, ils votent pas pour vous. On en a distribué à des policiers, à des gendarmes à Versailles, par exemple. Donc, des gens qui n'ont aucun intérêt électoral, à mes yeux.
Oui.
Et donc, les trappistes ne comprennent pas le motif de cet acharnement judiciaire de mon adversaire. Et donc, au contraire, ils sont assez mobilisés pour défendre leur maire. Et ils considèrent qu'au bout de 6 ans, comme pour tous les maires de France, qu'il faut pouvoir juger de l'action et faire confiance de nouveau ou pas à son maire. Donc, je sens une vraie mobilisation de terrain, une vraie dynamique des électeurs pour confirmer leur vote d'il y a un an.
Ça se passe comment sur le terrain, en dehors de cette mobilisation que vous captez ici et là sur la ville de Trappes ? La population, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle redonne confiance à vous-même ? Est-ce que vous-même, vous avez confiance ? Dans quel état d'esprit vous êtes ? Et d'ailleurs, c'est dans quelques semaines le revote.
Tout à fait. C'est dans 15 jours, dans 20 jours à peu près.
Dans 20 jours.
À partir d'aujourd'hui. Donc moi, je suis très mobilisé avec mon équipe parce que il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tout simplement. Et je fais confiance, moi, aux électeurs, et il faut les mobiliser fortement. Mon vrai adversaire, c'est pas tellement les autres listes. Mon adversaire, c'est la démobilisation, c'est l'abstention. Plus il y aura d'électeurs qui se rendront aux urnes, plus il y aura de trappistes motivés et mobilisés dans cette élection, plus ma victoire sera large, je l'espère. Donc c'est contre cela que je lutte, contre la démobilisation, parce que ce n'est pas simple d'inviter les électeurs à participer à une élection dont ils ne comprennent pas forcément le sens en se disant « Ali Rabé était notre maire, pourquoi ça changerait ?»
Pourquoi ça changerait ? Ça, c'est évidemment la chose à laquelle vous redoutez de vous retrouver face à une abstention massive, mon cher Ali Rabé.
Exactement, et pour pouvoir conjurer cette abstention, on va insister sur nos points forts, notamment sur notre bilan. Et on a fait énormément en un an. Et les trappistes en sont très reconnaissants. Il faut maintenant qu'ils traduisent cette reconnaissance dans les urnes par un nouveau signal de confiance à travers leur participation électorale. Et nous avons fait beaucoup pour l'éducation en particulier, pour rétablir le soutien scolaire pour les enfants, rapidement après l'école. Nous avons fait beaucoup l'été pour permettre à des centaines de familles de partir en vacances pour 10 euros par personne, pour donner le droit au loisir pour tous. Parce que vous savez très bien que quand on a la chance d'être issu d'une famille riche, on peut profiter de la montagne en hiver, on peut profiter de la plage l'été, mais quand on est issu de famille nombreuse ou de famille pauvre, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, on n'en a pas toujours les moyens financiers, et c'est le rôle de la puissance publique, d'une municipalité, de permettre à tous de profiter du droit aux vacances. Alors, on a fait aussi beaucoup en matière de sécurité, en matière d'emploi, je pourrais égrener en matière de logement, pour descendre les locataires, et les trappistes savent quel a été notre travail pendant un an, et donc, maintenant il faut qu'ils se mobilisent.
Donc Ali Rabé, si j'ai bien compris, votre atout majeur, c'est le bilan durant ces un an.
Clairement, c'est ce qui fait la différence. Il y a ceux qui parlent, nos adversaires passent leur temps à parler, à accuser, devant les tribunaux, etc. Et il y a ceux qui agissent. Et depuis un an, nous sommes une vingtaine d'élus extrêmement actifs, qui avons un bilan à leur actif. On a une vingtaine de pages, notre bilan est très riche, très fourni en à peine un an. Nous l'avons distribué aux trappistes, nous allons à leur rencontre tous les jours, en porte-à-porte, sur le terrain, et on reçoit un accueil très favorable.
Un accueil très favorable. Vous-même, dans quel état d'esprit vous êtes, Ali Rabé ?
Combatif. Vraiment combatif. Plus je suis attaqué, et je l'ai été beaucoup ces derniers mois, je l'ai été au mois de février, rappelez-vous la polémique avec le prof de philosophie.
Oui, vous étiez sur notre antenne d'ailleurs.
J'étais passé sur votre antenne, et à l'époque où un prof de philosophie, un peu mythomane, considérait que toute la ville de Trappes et ses 32 000 habitants étaient des islamistes, des intégristes dangereux pour la République.
Vous aviez fait la une des journaux, tout simplement, des médias.
On l'avait fait à notre corps défendant, on aurait préféré qu'on ne parle pas de nous, parce qu'on essaye dans cette ville de vivre comme tout le monde en France, de réussir malgré les écueils et les difficultés, en particulier quand on est issu de familles modestes. Mais il a fallu là se battre, ça a été le rôle aussi du maire, pour défendre la réputation et l'honneur de la ville et de ses habitants. Et depuis, nous sommes, je vous le disais, au travail, avec un vrai bilan, une mobilisation importante des habitants et de mon équipe municipale.
Alors,
et si vous me demandez mon état d'esprit, c'est pas combatif face aux adversaires. Et j'ai une coalition aujourd'hui des adversaires qui se sont réunis, de l'ancien maire qui était socialiste à une époque, qui a 84 ans, et qui a rejoint aujourd'hui le jeune candidat Valérie Pécresse, Othmane Nassou, qui a 32 ans. Tout cela sont colonisés contre moi, mais moi j'ai le meilleur bouclier, le meilleur rempart, c'est la confiance des papistes.
Écoutez, Ali Rabet, ce sera ma dernière question. Vous avez été maire de Trappes, et puis ensuite, vous voulez endosser de nouveau, évidemment, cette casquette, cet habit de maire de Trappes. Durant les prochaines semaines, comment comptez-vous vous y prendre justement pour aller jusqu'au bout du tunnel, jusqu'au, vous l'avez dit, combatif, jusque la dernière goutte justement pour aller convaincre les derniers, évidemment, indécis par exemple?
Comme je l'ai fait pour être maire la première fois, le terrain, aller taper à chaque porte, aller rencontrer chaque famille. Rappeler les enjeux de cette élection municipale, c'est d'aller au bout du travail que nous avons commencé il y a un an. Rappeler ce que nous avons fait, mais aussi parler de ce que nous allons faire dans les 5 ans qui viennent et de ce qui distingue notre candidature de celle de nos adversaires. Et si j'aime faire une chose, moi, ça va être au contact des habitants de ma ville, qui me le rendent bien, parce que je suis accueilli vraiment très chaleureusement par les trappistes. Et c'est uniquement par le terrain, que nous réussirons confirmer notre belle victoire.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent sur la ville de Trappes, mon cher Ali Rabet?
Un message très simple. Ne laissez pas les autres décider à votre place. Il faut à tout prix vous mobiliser pour aller voter le 10 octobre. Si vous n'êtes pas au rendez-vous dimanche 10 octobre des urnes, alors ce seront d'autres qui décideront pour vous. Et il y a des gens, Valérie Pécresse, Jean-Michel Fourrouze, bien connu localement, les leaders de la droite, qui décident à votre place qu'est-ce que doit être le destin de la ville de Trappes. Bien, moi, je crois que c'est aux trappistes de décider, c'est aux trappistes de choisir un maire issu de leur ville qui habite avec eux. Car sachez-le, M. Parkan, je suis le seul candidat qui habite sa ville et qui est candidat pour en être le maire. C'est original, mais c'est ainsi. Mes adversaires habitent d'autres communes dans le département ou à Paris, mais refusent d'habiter la ville dont ils souhaitent être les maires.
Eh bien, merci Ali Rabet d'avoir été avec nous. Vous étiez notre invité, je le rappelle, pour l'invité Actu. Et merci, bon courage. Évidemment, on regardera avec ça avec beaucoup d'attention et on suivra ça de très près. Merci Ali Rabet.
Merci à vous.
Merci. 19h12, on va accueillir tout de suite, vous savez quoi, celui qui avait pour habitude de, évidemment, de se faire connaître par de la polémique, Fabrice Divisio. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, mon cher Fabrice?
Fatigué.
Que vous arrive-t-il? Dites-moi, dites-nous tout. Vous nous avez manqué à la radio, on vous attendait en direct. Et puis je sais que vous avez eu un empêchement, vous êtes tout excusé. Pourquoi vous êtes fatigué, mon cher Fabrice Divisio?
Je suis fatigué parce que ça fait un an et demi que cette crise dure. Ça fait quelques mois maintenant qu'elle s'est intensifiée. C'est très très dur à vivre, notamment pour tout. Vous savez que j'ai manifesté très souvent, tout le temps. J'ai été extrêmement présent. Et je souffre vraiment beaucoup de la situation de tous les gens que j'ai rencontrés. Il y a une violence institutionnelle qui a pris tout le monde de court. Et on a stigmatisé les Français, on les a maltraités. Et vraiment, ça me fait mal et ça m'épuise pour eux.
Mal pour eux. Vous avez donc décidé d'abandonner, évidemment, votre statut d'avocat. Vous avez décidé aussi d'abandonner votre statut de chroniqueur chez Cyril Hanouna. Qu'est-ce que vous voulez faire précisément maintenant, Fabrice Divisio?
Ce que je veux faire d'abord, c'est prendre du temps. Le temps de l'intériorité. Le temps de se remettre face à soi-même et de voir un petit peu, effectivement, où on en est dans notre propre vie. Je pense que chacun devrait le faire à un moment. Et ensuite, j'ai fait ce choix de me dire, et si je donnais à voir le visage d'une autre France que celle qu'on présente? Et si les 7 ou 10 millions de 20 000, je ne sais pas combien, de personnes qui refusent le pass, qui refusent d'être forcées à se faire vacciner, méritaient d'être entendues? Si ces voix méritaient d'être entendues, on va devenir une élection législative où on va avoir des représentants de la nation qui font front commun,
oui,
finalement, pour accepter l'inacceptable.
Justement, Fabrice Divisio, est-ce que ça vous traverse l'esprit, tous les matins vous y réfléchissez, vous vous dites finalement peut-être, est-ce que vous avez envie de vous lancer dans la politique, Fabrice Divisio?
Dans la politique, j'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est que la politique. Si vous me posez la question de savoir est-ce que j'ai envie de faire entendre une voix discordante, et est-ce que j'ai envie d'aller vraiment faire entendre la voix de ceux que depuis un an et demi on n'entend pas, la réponse est oui.
Oui, donc vous avez envie de vous lancer en politique?
Appelez ça comme vous voulez, moi, ce mot politique, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ce que j'ai effectivement fait, moi, finalement, je vais faire la même chose que ce que j'ai toujours fait jusqu'ici. Je vais être à l'écoute des gens et essayer d'apporter des solutions. Qu'on le fasse dans un prétoire, qu'on le fasse en manif, ou qu'on le fasse effectivement ensuite en campagne, c'est la même chose. C'est le prolongement naturel.
Comment vous organisez votre vie sans passe sanitaire aujourd'hui?
Vous savez, Moi, je le dis depuis un an et demi, toutes ces mesures, elles ne m'impactent pas. J'ai de la chance, elles ne m'impactent pas. Et je peux bien rester dans mon coin sans jamais subir quoi que ce soit, s'agissant du pass sanitaire, sans jamais avoir à subir le confinement. Ce n'est pas pour moi que je me bats. Je m'en fiche, en fait. Moi, ces mesures, elles ne m'impactent pas. Simplement, moi, je ne vis pas dans 50 mètres carrés. Moi, je ne travaille pas avec la nécessité de se faire tester tous les 3 jours. J'ai des enfants qui, effectivement, n'ont pas réellement de vie sociale en dehors de l'activité sportive qu'ils font avec leurs propres chevaux. Donc, on a de la chance. On est hyper privilégiés, si vous voulez. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
Bon, j'espère que on va vous retrouver ici même en direct sur le plateau des informés sur Beurre FM, Fabrice Divisio, comme vous aviez l'habitude de faire d'ailleurs.
Avec plaisir.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs qui vous écoutent, qui sont d'ailleurs, vous savez, j'ai reçu plein de messages vous concernant. Vous avez envie de leur dire quoi?
Vous savez, alors, il ne fait plus mystère que donc je me présente aux législatives, en Seine-Saint-Denis, qui est un département si cher à mon cœur, où j'ai vécu toute ma vie, et à la demande d'un certain nombre de citoyens. Et j'ai envie de dire, en fait, le meilleur, mon slogan de campagne, c'est le meilleur reste à vivre. Ne perdez pas l'espérance, le meilleur reste à vivre. N'acceptez pas d'être stigmatisé, n'acceptez pas ce monde de noirceur, ce département en particulier qu'on présente comme noir, où il y a tellement de problèmes. Il y a des problèmes, il faut les affronter et les résoudre, mais de grâce, le meilleur reste à vivre.
Merci Fabrice Divisio d'avoir été avec nous dans les informés sur Beurre FM, et j'espère à très vite, hein, ici même sur le plateau.
Merci.
Portez-vous bien. 19h16, avec un peu de retard. On va lancer la pub et on se retrouve tout de suite après. Le standard est ouvert au 01-53-48-3000, 01-53-48-3000. Je voudrais parler, vous savez quoi? Eh bien, de cette relation qui devient de plus en plus tendue. L'épisode marque un nouvel accès de tension entre les pays voisins du Maghreb. Je fais référence à l'Algérie et au Maroc, avec évidemment cette interdiction totale pour les vols de passer sur l'Algérie. Eh bien, on en parle tout de suite au 01-53-48-3000.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Et 19h22 précisément et en direct dans les informés sur Beurre FM. Vous le savez, le face-à-face qu'on va retrouver dans une poignée de minutes. J'ouvre le standard au 01 53 48 3000 pour lancer ce sujet tous ensemble. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui les mariages mixtes franco-maghrébins, et puis y compris surtout avec en France, hein, vous savez, la majorité des maroco-algériens, cette mixité qui est aujourd'hui un véritable factuel, eh bien on a atteint aujourd'hui, j'en parle, vous savez quoi, vous allez comprendre mon propos, aujourd'hui un nouvel accès de tension entre les deux pays. L'Algérie a décidé depuis hier précisément la fermeture de son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains. Donc oui, la question se pose et elle fait débat. L'Algérie donc qui a pris cette décision alors que vous le savez vous-même, il y a une rupture de ses relations diplomatiques depuis cet été avec le Maroc. Qu'en pensez-vous? Les réactions, comment vous les accueillez? 01 53 48 3000. Le standard est ouvert, je vous attends. Et tout de suite, je vais d'abord jingle et ensuite présenter le face-à-face.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Vous le savez maintenant, vous le notez. 01 53 48 3000, le face-à-face. Nadir Kaya, bonjour, président de Banlieue Plus. Comment
bonjour
ça va?
Bonjour Adil, bonjour à tous.
Tout va bien?
Oui, un peu speed, mais ça va.
Un peu, pourquoi speed?
On est en pleine semaine, il y a de la circulation.
C'est vrai. Vous êtes
la vie est speed de façon générale.
Elle est stressante et speed. Face à vous, eh bien, c'est Hamid Chriel, géopolitologue. Bonjour Hamid.
Bonjour Adil, merci.
Tout va bien?
Invitation très bien.
Un petit mot quand même sur Fabrice Divisio. Vous l'avez trouvé comment, Fabrice?
Alors moi, je l'ai découvert à TPMP dans les émissions de Cyril Hanouna. J'ai apprécié parce qu'il sortait un petit peu du cadre habituel. Il nous poussait à une certaine réflexion par rapport à la crise. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Après, c'est vrai que l'extérieur, c'est-à-dire sa façon d'être un peu lui aussi speed, dynamique et parfois méprisant.
Ouais.
Mais sur le fond, je l'ai trouvé intéressant parce qu'il nous apporte...
Moi, je l'ai senti très, très fatigué.
Ah là, oui, actuellement.
Je l'ai pas reconnu,
c'est
là.
C'est normal, quand tu commences à être exposé médiatiquement.
Il est au bord du burn-out, là, j'ai l'impression.
C'est normal. Déjà, comme on l'a vu, il est déjà, je pense, assez dynamique de façon générale et de façon professionnelle. Mais là, quand on commence à faire le buzz médiatiquement, en France, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. C'est-à-dire, c'est aussi une certaine notoriété. Mais elle a une double face, cette notoriété.
Hamid Chriel, vous partagez la même chose? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je l'ai pas reconnu, Fabrice Divisio.
Écoutez, c'est vrai que pendant l'été, il y a eu plusieurs manifestations anti-vax, etc. Donc, il est vraiment dans le burn-out. Après, ce qu'il dit, il y a des choses qui sont intéressantes sur la question de la vaccination, la question du pass sanitaire. Il y a d'autres questions, bien évidemment. Moi, je suis en désaccord avec lui. Mais je pense que c'est bien parce qu'il apporte quand même un grain de démocratie, un grain de débat dans ces débats-là qui étaient un peu étriqués. Et donc, il apporte une autre parole qui est intéressante, mais qui est toujours prendre à la... J'irai avec distance, avec distanciation.
Voilà. Allez, on va aller direction le standard, il est ouvert, pour parler justement de l'Algérie qui interdit son espace aérien au Maroc. On en parle, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagissez surtout? 01 53 48 3000, Nasser de Chevilly-Larue, bonjour Nasser. Nasser, bonsoir. Nasser, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Ouais. Ah bah, parlez bien devant le combiné de votre téléphone, puisqu'on vous entend comme si vous étiez à Washington.
Non.
Alors dites-moi tout, Nasser, on vous écoute. Approchez-vous.
Voilà, moi je voudrais intervenir sur...
Parlez bien avec votre portable s'il vous plaît, parce qu'on vous entend très très mal, vraiment. C'est pas audible. S'il vous plaît, merci.
Ok, merci. Ah,
allez-y.
Là, vous m'entendez là?
Un peu mieux, allez-y. Allez-y Nasser, je vous écoute.
Ouais, moi ce que je voudrais dire, entre le Maroc et l'Algérie... Ah, il n'a jamais eu de problème. Il n'a jamais, entre la population, il n'a jamais eu de problème. Les Marocains, Algériens, Tunisiens disent bien, tout, on est du même continent et on est de la même région.
Mais vous avez raison de le rappeler, le peuple n'a rien à voir là-dedans, c'est vrai.
C'est un problème de l'Essaba. Les gens qui ont ouvert ce pays.
La politique, donc.
Et eux, je les accuse demain, après demain, toute ma vie, je les accuse. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est un grand haram.
Mais vous vous rendez compte quand même, dans les mariages mixtes, les mariages où les Marocains sont mariés avec les Algériens, ils sont nombreux, mais nombreux à l'appel. Imaginez à l'instant qu'il y a un impact au sein de ces couples.
Écoutez, je vais vous raconter, moi, une petite partie de ma vie.
Alors racontez-nous, ça nous intéresse. On vous écoute, 01 53 48 3000, vous continuez à nous appeler.
Natif en Algérie, à Alger.
Oui.
Mon grand-père, il a immigré en Algérie en 1914.
Oui.
Mon grand-père, il avait 14 ans.
Oui.
Voilà, il vient du Ouarzazate.
Ouarzazate, d'accord.
L'arrière-grand-père de ma mère, il vient de la Syrie.
Oui.
Ma mère, elle s'appelle Hamza.
Okay. Oui.
Ma mère, elle est algérienne. Mm-hmm. Mon père, il est algérien. Son grand-père à elle, il est algérien.
Oui.
Ce qui fait, on est tous des Algériens,
oui.
Des Marocains, on est des Maghrébins,
oui.
On est frères, sœurs.
Oui, c'est vrai, vous avez raison de raconter cette petite séquence qui a toute son importance, parce qu'effectivement, elle dénote.
C'est normal.
Elle dénote un certain nombre de maghrébités. C'est vrai, oui, je comprends.
Il ne faut pas qu'il y ait ça. Je fais appel à toute la population.
Oui.
Il ne faut pas rentrer dans l'embuscade.
Vous avez raison, oui, certainement pas. Il ne faut surtout pas sombrer. Dans le évidemment.
Gouverneur.
Oui. Merci Nasser.
Je vous en prie. Je vous souhaite bonne continuation. Merci. On va.
À très bientôt. Je vais aller direction Nanterre le 92 où je vais accueillir Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour. Bonjour Mohamed. Bonjour, je vous écoute. Bienvenue.
Ah, merci beaucoup. C'est gentil. On vous remercie pour la qualité de vos interventions.
Merci.
Il y a un écho, mais je vais essayer de ne pas l'écouter. Je voulais intervenir juste rapidement en disant qu'il y a peut-être une solution à laquelle j'ai réfléchi.
Oui.
Aujourd'hui, en France, nous avons énormément d'élus qui sont issus d'origine des deux patries, marocaine et algérienne.
Vous avez raison.
Et que ces élus-là ne font rien sur le terrain. Je veux dire, de créer peut-être une association, de créer une intervention pour qu'ils puissent un petit peu montrer qu'on peut s'entendre, on peut construire un avenir commun. Les Algériens partent au Maroc, les Marocains aussi, certains Marocains partent en Algérie, et il n'y a aucun souci. Mais ici, nous vivons ici, et nous sommes pratiquement tous français, et qu'il faudrait mettre sur le terrain une intervention, je veux dire, des élus qui...
Vous avez raison, le poids des élus, il peut effectivement faire basculer un certain nombre de choses. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est une bonne idée, c'est pas faux. Ben, on lance l'idée sur l'antenne des informés, sur BFM. Non, je la trouve excellente, cette idée. Excellent. Qu'est-ce que vous en pensez, Nadir et Hamid ? C'est une bonne idée, vous partagez ?
Alors moi, personnellement, je la trouve très intéressante. Ça peut faire écho. C'est vrai qu'ici en France, entre Algériens, Marocains, Tunisiens, on est la même famille, on vit dans les mêmes quartiers, on a les mêmes histoires.
Et puis surtout, c'est les mêmes. Ils sont mariés entre eux, il y a des enfants.
On a des histoires qui remontent à très très loin. On est des frères et en plus, au-delà de ça, on a aussi la même religion. Et notre religion doit nous rappeler qu'elle est au-dessus de toutes ces guerres de nationaliste ou de rivalité entre chefs de l'État. Comme l'auditeur précédent le disait, le peuple, lui, les peuples n'ont pas cette haine. Au contraire, c'est de l'amour qu'ils ont entre eux.
Mohamed, on est d'accord avec ça, Mohamed ?
Ah, tout à fait, tout à fait. Étant d'origine algérienne et je pars très souvent au Maroc, je ne sens aucune différence entre le Maroc et l'Algérie.
Merci,
et
Mohamed.
Je vous en prie. Mais sachez que aussi, ça peut partir par l'aspect économique. Aujourd'hui, il y a énormément d'investissements faits au Maroc et un petit peu en Algérie, et que à ce jour, il y a aucune diaspora commune. Je veux dire, les Marocains travaillent seuls, les Algériens travaillent seuls. Et essayer de créer un marché commun entre les deux, ça peut venir aussi par cela.
Exactement. Voilà. Eh bien, écoutez, on retiendra tout votre, on retient vos idées, on va les lancer sur l'antenne. Merci, mon cher Mohamed.
À bientôt, au revoir.
À bientôt, Nanterre. Direction Grenoble, je vais accueillir Nadir. Bonjour, Nadir.
Nous.
On a notre Nadir à nous, mais un Nadir de Grenoble. Bonjour, on vous écoute, Nadir.
Oui, bonjour. Du coup, moi, question de entre l'Algérie et le Maroc, moi, personnellement, je suis un Algérien, mais du coup, sincèrement, l'idée que rompre les relations, ça me révolte énormément. Je vous assure, ça me donne la rage quand je vois ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc. Moi, déjà, en arrivant ici en France, dans mon quartier, j'ai trouvé que des Marocains. Maintenant, voilà, il y a que des amis marocains. Mon entourage, c'est des Marocains. Moi, cette année, je vous assure, je n'étais pas parti en Algérie à cause des conditions pour rentrer au bled. Alors, du coup, j'ai préféré pour aller au Maroc. J'ai eu des invitations. Je vous assure, quand arrivé là-bas avec ma famille, mes enfants, les Marocains, ils nous ont reçus d'une façon... personnellement, moi, peut-être dans mon pays, je pourrais pas les recevoir de la même façon.
Bah, écoutez, alors, tant mieux pour vous, c'est une très bonne chose.
Moi, ce que je voudrais savoir, moi, c'est pas question, je suis contre moi, mon pays, non. Mais j'ai entendu le discours du roi du Maroc lorsqu'il a donné, il a voulu faire appel en Algérie, c'est-à-dire pour qu'il y aura une table ronde. Mais le problème, l'Algérie n'a même pas répondu. Comme si, par exemple, c'est un gars qui... Non, la moindre des choses, il y a un roi qui a sollicité un président, la moindre des choses, lui répondre, se mettre sur une table ronde. Personnellement, moi, maintenant, ici, hier à la mosquée, il y a des Marocains qui me demandent...
Ça viendra peut-être de vous, d'ailleurs, la force de frappe des auditeurs de France, exactement, collectifs, qui, eux, vont faire un soulèvement et qui vont s'adresser aux deux pays, évidemment,
moi,
pour que cela cesse.
Moi, sincèrement, le président, au lieu de penser, c'est-à-dire au gouvernement, il faut penser au peuple, parce qu'il y a des gens qui sont mariés là-bas, qui ont la famille, qui sont nés là-bas. C'est franchement...
Eh bien, merci Nadir, on aura compris, effectivement. Merci Nadir pour votre intervention et votre témoignage. Très touchant, merci à vous. On retrouvera Hamid de Paris dans une poignée de minutes, donc restez avec nous Hamid. Pour l'heure, c'est le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Chaque jeudi, c'est Pascal Boniface, le patron de l'ERIS. Bonsoir mon cher Pascal.
Adil.
Bonsoir, comment allez-vous Pascal, ça va ?
Ça va, combatif, parce que...
Alors, on vous écoute pour votre Quoi de Neuf.
Oui. Alors, lundi, deux chercheurs, directeurs et un chercheur de l'IRSEM, qui est un think tank du ministère des Armées, ont sorti un rapport disant que le l'IRIS était finalement affidé à la Chine parce qu'on avait organisé des colloques avec l'ambassade de Chine en 2017, 2018 et 2019. Donc, c'est plutôt un peu ancien.
On le fait.
Alors, bon, ça fait longtemps que je suis accusé d'être payé par les Arabes, vu mes positions sur le Proche-Orient. Être payé par la Chine, c'est un peu plus récent, mais c'est quand même à la fois très grave et très inquiétant. C'est-à-dire que c'est quand même une attaque en règle, et ça voudrait dire qu'on ne peut pas avoir de contact avec des think tanks américains, ou des pays de l'OTAN, ou des pays européens, et que tout contact avec un think tank chinois serait interdit, alors que on est en contact, nous, avec la plupart des ambassades sur Paris. Et en plus, tous les think tanks font ça. On n'est pas les seuls. Et on est les seuls à être visés. Bon, je vais commencer à me demander, Adil, il y en a certains que je dérange quand même. Tu vois,
je ne vais pas vous le savez, je ne vais pas vous le dire, mon cher Pascal, mais bon, oui.
Donc, il y a une sorte de. De désigner comme cela. Alors, en plus, il est dit que l'on relayait le discours chinois, ce qui est faux, puisque sur bien des points, on a au contraire opposé la contradiction. C'était relativement contradictoire, et on peut le démontrer, on l'a ressorti. D'ailleurs, j'ai mis sur une vidéo sur cela, les auditeurs peuvent s'y référer.
Oui.
Ce qui me paraît grave, c'est ce climat un peu, de macartisme. on veut faire taire ceux qui ne sont pas dans la ligne. Mmh. Et désigner comme ça un militant en disant « Ah, il bosse pour l'étranger », c'est quand même très grave, c'est quand même très grave. Surtout quand c'est la Chine.
J'ai envie de vous dire, vous troublez le fonctionnement, mon cher Pascal Boniface.
En fait, ce qui est le plus fort, c'est que tout le monde reconnaît, enfin les auditeurs, le public reconnaissent notre indépendance. On est indépendant par rapport au pouvoir, on est indépendant par rapport au groupe de pression, on est indépendant, oui, bien sûr, ouais, il arrive de me rendre en Chine, enfin, il arrivait, parce que maintenant c'est terminé, mais une fois encore, on ne peut pas avoir des relations. C'est quoi cette histoire de dire ils ne sont pas comme nous, on ne parle pas avec eux? C'est simplement impossible. Parce que, est-ce que vous croyez que les choses vont changer ainsi? Est-ce que l'on croit que c'est un peu, tu sais, le système comprend, c'est légitimé, si on négocie, on s'abaisse, si on dialogue, on perd la partie? Non, il faut dialoguer, surtout si on n'est pas d'accord. Surtout si on n'est pas d'accord.
Exact.
Et moi, je renvoie, donc en fait, on a protesté officiellement par rapport à ce rapport, et je renvoie en fait les lecteurs et les auditeurs à tous les écrits de l'IRIS. Ils pourront voir qu'il n'y a pas un tropisme chinois dans les travaux de l'IRIS. Mais je trouve quand même que ça subodore quelque chose de pas très bon, ce type de rapport où il y a quelques pages comme ça perdues contre l'IRIS.
Ouais, on aime l'action normale, et comme vous êtes pas normal, donc les gens, ça les trouble.
Et quelques journalistes ont repris bien sûr cela sans vérifier. Le pire, c'est que les auteurs du rapport n'ont pas pris contact avec moi pour vérifier les informations qu'ils publient, dont beaucoup sont inexactes. Et quelques journalistes ont fait de même, ont repris les accusations sans dire, enfin normalement on vérifie quand même. Bon, voilà, enfin bon, bon maintenant je commence un peu à avoir le cuir tanné, la peau dure, etc. Je vois
tout près. Cela ne vous décourage pas, vous allez toujours continuer à déranger, à mettre en désordre, à bousculer?
Ben oui, parce que c'est aussi ça quand même qui fait l'ADN de l'IRIS, et c'est aussi pour cela que l'IRIS est populaire, que les gens nous remercient pour ce que l'on fait, parce que les gens ne se trompent pas, ils voient bien quand même la sincérité et l'intégrité de la démarche, au-delà de ces accusations qui sont faites pour nous atteindre, justement, sur notre ADN, l'indépendance.
Eh bien, merci.
Je défie quiconque de dire que nous ne sommes pas indépendants.
Merci pour ce billet d'humeur et cette carte blanche, on vous retrouve la semaine prochaine, sans faute.
Avec grand plaisir.
Et ne lâchez rien.
Bah, j'y compte bien.
Voilà, absolument. 19h37, on va marquer donc la seconde pause. Et la dernière ligne droite qui vous attend dans Les Informés, le face-à-face est attendu tout de suite. Ne bougez pas, restez avec nous.
Les Informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h20, Les Informés avec Adil Farkan.
Le face-à-face jingle.
Les Informés, le face-à-face.
Avec Nadir Kaye, qui est le président de Banlieue Plus, et face à lui, Ahmed Chriat, qui est lui géopolitologue. Messieurs, un petit mot sur l'Algérie qui ferme son espace aérien. Au Maroc, réaction aussi aux auditeurs qui ont réagi. Nadir Kaye ou Ahmed Chriat, l'un ou l'autre, qui? Ahmed Chriat, tiens. Allez,
moi je crois que
un mot avant de traiter les autres sujets.
Je crois que cette crise entre les deux pays, elle s'est intensifiée effectivement pour des raisons géopolitiques. On sait bien, après la fermeture des années 94, où le Maroc avait accusé l'Algérie sur les attentats, il y avait une erreur quand même du Maroc par rapport à ça. Après, il y a eu quand même des avancées par rapport au Maroc sur, en fonction avec l'Algérie, en négociant aussi des accords sur la question du Sahara, en faisant une proposition sur le plan d'autonomie. Et donc, il y a eu quand même une fermeture des gouvernements algériens. Je crois que le président Bouteflika, à l'époque, lorsqu'il a été élu, avait fait un pas.
Oui,
on n'en parle pas. On n'en parle pas, mais je
pense. De réconciliation.
De réconciliation, etc.
Je me rappelle.
Et il avait quand même une vision, en tout cas, sur la question du Maghreb. Je crois qu'il y a deux, en tout cas, aujourd'hui, axes à développer dans cette partie-là pour résoudre ce conflit-là, notamment sur la question du conflit du Sahara occidental, dit pour certains Sahara marocain. Je crois qu'il y a deux axes. Le premier axe, c'est soit d'avoir une négociation entre les deux pays et d'avoir une médiation peut-être française, l'ancienne puissance coloniale, qui puisse aujourd'hui effectivement travailler en amont avec les diasporas et que les diasporas qui franco-algériennes, franco-marocaines, qui sont influentes, puissent peser de
les
tout DZ leur poids.
Les DZ et les MRE, c'est ça?
Voilà, les MRE, les Marocains résidant à l'étranger. Donc, qui puissent peser de tout leur poids, ou soit effectivement l'autre axe, je dirais optionnel, c'est de aujourd'hui consolider l'axe maghrébin. Je m'explique, c'est-à-dire d'ouvrir le Parlement maghrébin à Rabat, d'organiser des élections maghrébines comme des élections européennes, et qu'on puisse aujourd'hui décentraliser les pouvoirs hiérarchiques, les pouvoirs centraux, en Algérie par rapport à l'appareil militaire et au Maroc par rapport à la monarchie. Et du coup, créer des conditions démocratiques avec, je dirais, un levier démocratique avec une assemblée consultative maghrébine avec des députés, de
Marocains, algériens et tunisiens.
Et des députés aussi de l'étranger. Marocains, algériens, tunisiens qui puissent représenter leur pays. Et ça va permettre, un, de négocier avec l'Union européenne et tous les États des accords économiques, de construire des projets intermaghrébins.
C'est pas mal. Bon, je vais laisser Nadir Kaya réagir. Nadir Kaya,
la troisième voie, pardon, si je puisse me permettre, c'est géopolitique. La troisième voie, c'est la question aussi de la révolution, comme le Hirak en Algérie, le Hirak qu'on a vu aussi au RIF, qui a commencé bien avant l'Algérie. Et donc, ça peut être aussi d'éliminer tout le système. Donc, on a deux voies en réalité. On a la voie maghrébine, élection maghrébine qui puisse développer, je dirais, un bloc maghrébin fort. Avec le Maghreb peut-être la dixième puissance ou la huitième puissance économique si on intègre l'Égypte,
oui.
Et ça sera à peu près la dixième ou onzième puissance militaire. Donc c'est
pas rien.
Parce que l'Algérie 27e puissance militaire, l'Égypte.
Alors Nadir Kaya, sans évidemment s'embarquer dans les puissances. Nadir Kaya, alors sur les tensions.
Les rappels de Hamid sont intéressants, mais après moi, en tant que simple Algérien par rapport à cette situation, je pense qu'il y a des éléments qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'il y a un passif entre les deux pays, certes, on est des pays amis, on a une histoire commune, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites entre ces deux pays depuis des années, au détriment de la politique des uns et des autres. Mais il y a des réalités qu'il ne faut pas oublier, notamment les pays qui sont derrière ces situations. Diviser pour mieux régner, c'est un proverbe qui va très très bien à ces deux pays, parce que derrière, il y a des grandes puissances qui n'ont pas intérêt à ce que l'Algérie et le Maroc s'unissent. Tu parlais de l'unité maghrébine, je te rappelle que Kadhafi en a payé de sa vie.
Ouais.
Lui aussi avait cette dynamique, il avait fait tout un travail, notamment avec le Maghreb, mais également avec l'Afrique de façon générale, et il l'a payé de sa vie. Aujourd'hui, il est hors de question que certains pays comme les États-Unis ou Israël acceptent ou imaginent entrevoir des négociations ou de revenir à une situation normale entre ces deux pays.
Pourquoi c'est les échos que vous avez ?
C'est pas des échos, c'est simplement des réalités. On a vu l'affaire de l'espionnage.
Certains vous diront que c'est pas prouvé.
Non, mais l'espionnage, c'est-à-dire le système de Pegasus qui a été mis en place par Israël pour aider le Maroc dans sa volonté de se développer d'un point de vue stratégie face à l'Algérie et à d'autres. Donc Israël, comme les États-Unis, aide le Maroc à ne pas s'entendre avec l'Algérie. Et puis du côté algérien, vous avez aussi.
Vous avez le sentiment que c'est ça?
Non, mais ça c'est les aspects extérieurs, parce que Hamid parlait de dynamique en interne.
Vous pensez que les Américains ou les Israéliens ont suffisamment, comment dirais-je, d'influence pour influer justement le pouvoir marocain?
Ah, mais bien sûr. Il faut pas se voiler la face. Moi, je suis algérien, je suis fier d'être algérien. Il y a des Marocains qui sont fiers d'être marocains. Au-delà de la fierté, il y a des réalités. L'Algérie est soutenue par le bloc de l'Est et notamment la Russie. Donc, à partir de là, des éléments qu'il faut pas prendre,
alors,
qu'il faut
Israël,
pas négliger.
Je pense que
c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité.
Vous en pensez quoi?
Le Maroc a négocié avec l'Algérie depuis 40 ans sur la question du Sahara occidental, dit Sahara marocain pour certains. Donc, le Maroc a décidé de se tourner vers les États-Unis et Israël, puisque la France, en réalité, a délaissé le Maroc, n'a pas voulu reconnaître le Sahara. Et donc, le Maroc, qu'est-ce qu'a fait l'ambassadeur du Maroc aux Nations Unies? A voulu reconnaître le MAC, la Kabylie. Donc, il a voulu aussi gêner, en réalité, l'Algérie. Mmh. Moi, je pense que le vrai problème, c'est, en réalité, la volonté politique à la fois entre le Maroc et l'Algérie. Certains pourront dire aussi que parler d'Israël et des États-Unis, c'est aussi d'une certaine façon légitimer le pouvoir algérien et marocain en disant qu'il y a, je dirais, des complices à l'extérieur et donc il y a toujours des théories du complot pour en réalité maintenir. Parce qu'on a bien vu qu'historiquement, les pouvoirs du Maghreb toujours ont utilisé la carte extérieure, la carte du complot. Ça aussi, c'est une lecture à faire.
Je ne dirais pas complice, je parlerais d'un.
Moi, je pense que. Le Maroc, de façon pragmatique, a utilisé la carte d'Israël parce qu'Israël a été un interlocuteur aujourd'hui qui permet. Un, de sécuriser la question du Sahara marocain, et deux, de défendre les intérêts du Maroc. C'est ça, la réalité, elle est là, en fait. La réalité est là. Et donc, le plan de Trump, et on l'a bien vu, parce que, là, je parle pour le Maroc, pas pour l'Algérie. Et on l'a bien vu, le Maroc, qu'est-ce qu'a fait le Maroc? Il a rompu les relations diplomatiques avec l'Allemagne, suite à la crise de l'ambassadeur.
Oui.
Il a rappelé son ambassadeur, puisque l'Allemagne a appelé au Conseil de sécurité une réunion d'urgence suite au plan de Trump, à la reconnaissance du Sahara marocain.
Oui.
Et puis, on l'a vu aussi avec l'Espagne, où, le chef du Polisario a été soigné avec un faux visa, etc., avec l'aide de l'Algérie, etc. On a vu ce que ça a donné. Le Maroc a laissé une vague migrante et a fermé les blocs du politique. Donc moi, je crois en réalité que les deux pouvoirs utilisent la caste extérieure. Le Maroc, de façon pragmatique, se dit « Bon, moi, Israël et les États-Unis reconnaissent mon Sahara, j'utilise cette carte géopolitique pragmatique et par conséquent, je vais le faire. » L'Algérie a le droit, et c'est légitime, de se méfier qu'Israël s'installe au Maroc. On peut être d'accord ou pas sur Israël, on peut critiquer Israël, etc., sur sa politique de colonisation en Palestine. Je veux dire, les peuples du Maghreb sont.
Il faut pas oublier que l'Algérie ne reconnaît pas l'État d'Israël.
Par contre,
c'est l'un des seuls pays arabes à ne pas reconnaître Israël.
Par contre, là où il faut être clair, je pense qu'aujourd'hui, tous les pays du Maghreb ont des relations avec Israël, indirectes, de façon officieuse ou officielle.
Soyons très clairs.
Soyons très clairs.
Y compris l'Algérie.
Y compris, soyons très clairs. Ça, c'est des documents.
Et c'est une réalité. C'est vrai.
C'est une réalité. Donc, moi, je dis aujourd'hui.
Comme la Turquie.
Moi, je dis aujourd'hui.
Ou la Turquie aussi. Ils ont tous des relations.
Moi, je dis aujourd'hui.
Ou l'Iran.
Moi, je dis aujourd'hui. Je ne suis pas contre des relations avec l'État d'Israël, je veux dire, d'un point de vue d'une puissance maghrébine indépendante. Sur l'appareil sécuritaire. Où les services secrets algériens ou marocains peuvent collaborer ensemble, en disant, et collaborer avec le Mossad, ou collaborer avec d'autres services de renseignement, la CIA, etc.
Ça renforcerait donc...
Ça renforcerait exactement le Maghreb, mais où la priorité, prioriser les services de renseignement algériens et marocains,
et
les autres, et tunisiens aussi, pour défendre, et égyptiens, parce que je parlais de la stratégie du Grand Maghreb, et défendre nos intérêts.
Vous mettez dans le lot la Libye, si vous mettez l'Égypte.
Et la Libye, etc. Et l'Algérie a un rôle à jouer au niveau du Sahel aujourd'hui, avec le Maroc, et ils ont tout à fait... intérêt à collaborer pour lutter contre les mouvements djihadistes, etc., qui sont sur le Sahel, et développer une économie aujourd'hui importante dans cette région-là.
Monsieur, vous savez, on va...
Comment on peut développer ça aujourd'hui ? C'est qu'il doit y avoir une volonté politique.
On va continuer, de toute façon, on va suivre ça avec beaucoup d'attention, vous le savez, messieurs. Comme la tension est extrêmement, évidemment, au plus haut, on va continuer de parler de ce débat de l'Algérie, du Maroc, parce que ça nous concerne, parce que ça fait aussi, évidemment, débat partout, ça polémique aussi pas mal. Messieurs, je voudrais vous faire réagir sur cette une. La une d'Éric Zemmour qui porte plainte pour la une choc de Paris Match, messieurs. Éric Zemmour se dit furieux contre la une. Qui est Sarah Knafo, justement, sa très très proche conseillère, on la voit en photo de façon très intime, ça le regarde, moi personnellement, sa vie privée, ça ne regarde que lui. Sauf que là, c'est le potentiel candidat à la présidentielle. Bon, et alors, qui a porté plainte pour atteinte à la vie privée après ses publications de photos privées. Messieurs, alors, Nadir Kaya.
Non, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de voir sa vie exposée, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas n'importe qui, c'est un homme politique depuis quelque temps, même s'il ne veut pas le dire. C'est un journaliste, c'est une personne qui est dans les médias depuis 20 ans maintenant, et aujourd'hui, il est dans une situation qui l'expose davantage parce que il va se présenter. Il y a tout un ensemble d'éléments qui nous fait croire qu'il va se présenter. Donc, à partir de là, il est extrêmement exposé. Donc, il veuille porter plainte, c'est son affaire.
Oui.
Mais se plaindre de cette situation, il est lui-même journaliste, donc il sait très bien. Paris Match, c'est pas un magazine qui est interdit. Ils ont des pratiques qui sont connues de tous. Je crois que Hollande aussi, à un moment donné, a subi cette loi du fait de rentrer dans la vie privée et d'être exposé, notamment l'affaire du scooter et de sa copine qui était pas très loin de l'Élysée.
Oui.
Donc il sait ce que ça lui coûte aujourd'hui d'être exposé. Donc de faire croire qu'il est choqué ou alors que cette situation est inacceptable, je pense que c'est...
Ah non, ça provoque la colère,
mais je pense qu'il est quand même intelligent dans sa façon de réagir, parce que quelque part il veut s'accaparer encore des voix en étant une victime du système.
Bon, alors Amine Chriette, justement, et cette fameuse Sarah, conseillère très proche d'ailleurs.
Bah, écoutez, la Sarah, tout le monde la connaît. Quand vous lisez le papier, effectivement, on voit bien ses réseaux. Elle était amie avec Jacques Attali, elle a séduit Jacques Attali, etc. C'est le papier qui le dit, etc.
Elle sort de l'ENA. La promo Molière.
Promo Molière, etc. Donc elle connaît le monde politique.
Et c'est une tête.
Hein. C'est une tête au-delà d'Éric Zemmour. Moi, je pense que tout ça, on dirait, j'ai l'impression que c'est une comédie qui continue à jouer. On est en train, Zemmour est l'acteur principal dans une scène, et on est en train de jouer en fait les scènes. J'ai l'impression que c'est même orchestré.
Vous allez loin, clairement.
Était dans une plage privée.
Voilà. On a l'impression que ça sert en fait. Il est en train de faire ce qu'on appelle monter la mayonnaise. Zemmour, c'est ce qu'il est en train de faire en réalité. Monter la mayonnaise.
On oublie
les débats de fond. On parle de cette truc. Moi, je veux aujourd'hui, et c'est tout le débat ou l'enjeu aujourd'hui de cette campagne présidentielle, c'est de parler de fond. Comment Monsieur Éric Zemmour va voir, puisque Monsieur Zemmour dit aujourd'hui que l'islam pose un problème. Comment va-t-il avoir en tant que président de la République une coopération avec plus de 58 pays musulmans, notamment avec l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique? Comment aujourd'hui va-t-il négocier les prix de gaz avec l'Algérie? Comment va-t-il aujourd'hui négocier les prix du phosphate avec le Maroc? Comment va-t-il aujourd'hui négocier les prix de l'agriculture avec le Maroc? Voilà. Donc, à un moment donné, Éric Zemmour, il doit effectivement nous faire montrer son programme politique.
Ouais.
Voilà.
Nadir Kaya.
Non, mais alors si on parle de son programme, moi personnellement, je pense qu'il a aucun programme. Il a juste des slogans. Il a des axes précis qui vont l'aider éventuellement à se présenter.
Il a l'ambition.
C'est ce que font les politiques depuis des années aujourd'hui. Quand on regarde bien la plupart de leurs programmes, c'est des programmes qui sont creux, qui sont vides. Preuve en est, quand ils arrivent au pouvoir, ils n'appliquent pas eux-mêmes leur programme. Ils sont là avec des slogans. Ils savent que les Français sont dans une situation extrême par rapport à des sujets qu'on met en place comme l'immigration, la sécurité, les banlieues. Et que là-dessus, ils vont faire le buzz. Donc, globalement, Zemmour a profité de ça. Et c'est comme ça qu'il a fait le buzz depuis des années, en termes d'écologie, en termes de stratégie, de géopolitique de la France.
C'est pour ça qu'il faut le ringardiser.
Vis-à-vis de l'Europe,
ah oui.
Vis-à-vis des autres pays, notamment sur la question voilà. de l'OTAN. On lui a posé des questions dernièrement. Il a été
incapable de répondre.
En disant, sous prétexte, voilà. que c'était pas le moment et que lui, sa priorité, c'était plutôt l'immigration. Voilà. Il joue sur les peurs des Français et il sait très bien sur quel sujet ouais. il faut parler.
La dette française depuis 3 000 milliards, c'est pas les Français de confession musulmane. 7 millions de chômeurs, c'est pas les Français de confession musulmane. Vous comprenez tout ça? Le Covid, c'est pas les Français de confession musulmane. Exactement. L'immigration, c'est pas l'immigration qui a ramené le Covid.
Le débat.
Donc, il faut qu'il réponde aux questions maintenant, monsieur Zemmour. Il faut qu'il réponde aux questionnaires et qu'il réponde aux questions concrètement.
Merci.
Comment va-t-il remplir le frigo des Français?
On doit impérativement
répondre.
Merci à
Zemmour. Sinon, il vient sur le plateau ici.
Mais il viendra.
On l'attend
Merci
sur ce plateau.
Merci à Nadir Kaya. Voilà. À la réalisation, c'était Yanis. Vous allez retrouver Time Sport. Incarné par Bilal Nedman, à demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien, portez-vous bien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.